Des conseillers. Abena Laurence.
Présent.
Enzi Jean.
Présent.
Arnaud Michel. Présent. Arnaud Odile.
Présent.
Barra Martine.
Présent.
Barouin Dolores.
Présent.
Biaise Michel.
Présent.
Baumler Laurent.
Présent.
Boucli Johan.
Présent.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie. Absente pour l'instant. Kérol Evelyne.
Présente.
Clos Marie.
Présente.
Coulet Dominique.
Oui.
Floury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie. Absente. Pouvoir à Odile Arnoux. Grosbon Lisiane.
Présente.
Lamy Christophe.
Oui.
Lemercier Jean-Claude.
Présent.
Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe. Absent. Oui, absent, excusé. Une urgence. Raguido Cécile.
Présent.
Raoui Ferrugia.
Présent.
Sauvage Patrick.
Présent.
Stephen Patrick.
Présent.
Urbano Patrick. Absent. Pouvoir à Patrick Floury. Voilà, attendez, il y a donc, que je dise combien il y a de membres présents, je n'ai pas fait le décompte. Donc 23 membres présents. Le quorum qui est de 14 conseillers est atteint. La séance sera donc valide. Voilà, j'invite maintenant à nommer le secrétaire de séance. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance ? Patrick Stéphane. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Patrick Stéphane, secrétaire de séance. Donc deux pouvoirs reçus, un pouvoir de Stéphanie Fourdrin à Odile Arnoux et un pouvoir de Patrick Urbano à Patrick Floury. L'ordre du jour, donc après l'élection du secrétaire de séance, l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 25 septembre 2014, la lecture de la décision du maire, des décisions du maire dans le domaine du droit de préemption urbain, décision du numéro 7-2014, point de l'ordre du jour sur les classes de découverte année scolaire 2014-2015, tableau des effectifs, avancement de grade catégorie B, ensuite, régime indemnitaire. Le point suivant, convention emploi aidé. Puis, indemnité du receveur principal. Du receveur municipal, pardon. Point suivant, décision modificative numéro 2 à l'exercice 2014. Classement d'une voix. Motion de soutien à l'action de l'Association des maires de France. Rapport d'activité du SE 60. Compte rendu des réunions des organismes extérieurs et questions diverses, il n'y en a pas eu. Arrivée de Madame Annie Carpentier. Il y a une place ici hein, qui est peut-être plus facile hein, à trouver. Annie. Il y a une place ici.
Annie, viens là.
Attends, on va passer la chaise.
Bien, je soumets donc à l'approbation du Conseil municipal le procès-verbal de la précédente. Y a-t-il des remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le compte-rendu de la précédente séance est donc approuvé. Ensuite, point suivant de l'ordre du jour, donc les décisions du maire dans le domaine du droit de préemption urbain. Donc il n'y a pas eu, le droit de préemption n'a pas été exercé. Il y a eu 3 dossiers depuis le dernier conseil municipal. Donc pour l'appartement de monsieur et madame Ancelin Jacquie au 18 rue Guinemer. Pour l'appartement SCI BP du 26 rue Juliette Adam, c'est la poste. Et puis l'appartement de madame Allaire Christelle, 2 rue de Saint-Ine. Décision du maire numéro 7. Donc, monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire, décide de signer ce jour, c'était le 8 octobre, le marché de travaux relatif à la réfection des bancs de l'église deuxième tranche avec la société menuiserie Fontaine, Granier, ZAC d'activité C, route de Saint-Sauveur, pour un montant de 19 980 euros hors taxes. C'est un marché qui a été passé selon la procédure adaptée après la fourniture de différents devis. Point de l'ordre du jour concernant les classes de découverte année scolaire 2014-2015. Donc il y a eu deux demandes de départ en fait des enseignants des deux écoles pour des classes de découverte. Deux demandes de départ qui concernent en fait chaque fois deux classes. Une demande de départ pour un séjour découverte Angleterre à Chalfont-Saint-Gilles du 1 au 5 juin 2015 qui concerne les classes de CM1 et de CM2 de l'école primaire des Remparts. Il y a eu ensuite une demande de départ pour un séjour en classe milieu marin au centre Le Homme du Contentin à Agon-Coutainville du 15 au 17 juin, soit 3 jours 2015, pour les classes de CP des deux écoles primaires. Dans un cas, on nous annonce 43 enfants, et dans l'autre cas, 54 enfants, ce qui fait au total 97 enfants, près de 100 enfants. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Patrick Stephen, adjoint aux finances.
Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, nous avons été sollicités donc, par les enseignants pour ces voyages et le départ de 4 classes donc, en Angleterre et pour les voyages mers. Donc, le coût global de cette opération représente globalement 30 635 euros, répartis par le fait que l'un coûte le voyage en Angleterre 19 259 et le voyage à la mer 11 376 euros.
Oui, 13 376.
13 376 pour le voyage à la mer. Au total, 32 635. Alors, la commission finance s'est réunie pour voir ce qu'elle était la façon la plus appropriée de transmettre en fait un montant proportionnellement aux différents voyages, et on a décidé en fait de donner une subvention de façon proportionnelle au coût proportionnel de chaque voyage, ce qui représente nous souhaitons amener une subvention de 15 000 euros globalement. Donc, ce qui représenterait 59,01% pour le voyage en Angleterre et 40,99% pour le voyage à la mer. Donc, Quand on reprend le montant du voyage en Angleterre, 19 259, la subvention qui serait attribuée pour ce voyage représenterait 8 852. Le reste à régler après la subvention, 10 407 euros, ce qui fait pour un coût pour les familles de 242,02 €, qui serait un coût maximum. Charge après aux directrices d'école de faire diminuer ce tarif hein, par le biais de vente de gâteaux, de choses comme ça, comme elle l'avait fait l'an dernier, pour pouvoir faire diminuer le coût aux familles.
Alors en fait, c'est parents et enseignants. Voilà, c'est une action, pas uniquement
global,
des enseignants.
En fait, hein. c'est à eux de... La balle est dans leur camp, et après, s'ils veulent diminuer le coût, c'est à eux d'amener des actions pour pouvoir faire diminuer ce coût. Pour le voyage à la mer, 13 376 euros. Donc ça ferait une subvention de 6 148 euros. Reste à régler donc, après subvention 7 228, soit un coût par enfant de 133,85 euros. Donc là, c'est pareil, un coût maximum. Donc nous avons opté pour cette... aujourd'hui, on a décidé... Alors, il faut savoir que l'an dernier, il avait été versé 11 700 euros pour les voyages scolaires. Donc, on verse un petit peu plus, mais bon, automatiquement, il y a 4 classes qui partent.
L'an dernier, il y avait 2 classes qui étaient parties.
Il y avait 2 classes qui étaient parties. Il faut aussi savoir que cette année, ce que l'on fait là ne sera pas fait l'an prochain, dans la mesure où on a été mis un peu devant le fait accompli. C'est-à-dire que les enfants ont été avertis des voyages avant même qu'on ait pris cette décision ce soir d'octroyer une subvention. Hein? Donc ce qui est pas très... Enfin, c'est pas la façon de faire, à mon avis. Il faut peut-être attendre, faire la demande, attendre que les subventions soient versées, et puis après avertir les enfants. Et non pas leur dire, si jamais il n'y a pas la subvention, vous ne pourrez pas partir parce que la mairie n'a pas versé la subvention. Donc l'an prochain, on fera autrement. En fait, je pense l'avis général, ce sera sans doute de faire partir que 2 classes dès le départ. On en discutera le moment venu, mais pour qu'on ait plus ce problème. Voilà, parce que... Donc, alors faut savoir, si vous voulez, je termine, on a par contre réduit, pour pouvoir justement compenser un petit peu, on a annulé l'aide aux leçons cette année, qui représentait à peu près 3 000 euros par an, qu'on a remis dans le budget justement pour faire partir les enfants. Et les repas des cantines du vendredi, comme il y a moins d'enfants, il y a 20 enfants qui partent, qui ne viennent pas à la cantine le vendredi maintenant avec les nappes, ça fait baisser un petit peu le coût global de ce que l'on paye aux cantines. Donc la différence, on a pu le reprendre sur ce budget-là.
Patrick. Oui, la question c'était, il n'y a que l'école des remparts qui part en Angleterre.
Oui.
Il y a
oui.
2 classes de l'école des remparts.
Tout à fait.
En fait, sur l'école d'à côté.
Ils vont tous les deux à la mer.
Ils vont que à la mer.
Hein, ils vont à la
alors
mer.
Alors que les remparts.
Les remparts partent en Angleterre.
En Angleterre et à la mer.
Et à la mer. Il y a trois.
C'est-à-dire que les remparts vont à la mer et en Angleterre.
Enfin, il y a 3 classes aux remparts et 1 classe
au centre.
C'est pareil, c'est pas très... Enfin,
c'est pas équitable.
C'est ce qu'on a... Alors juste quelques éléments. Hein. C'est vrai qu'il y a une différence.
Oui, c'est-à-dire que bon, ça vient aussi des enseignants qui veulent aussi partir ou pas partir.
Ça, c'est pas pareil.
Alors là, c'est effectivement les enseignants qui voulaient partir. Bah, c'est les 4 enseignants là, dont les classes partent.
C'est pour ça que l'an prochain, faudra revoir dès le départ.
Moi, je suis
partisan. Voilà.
Alors,
une école et deux autres écoles. Alors, pour vous donner quand même quelques éléments supplémentaires, il faut savoir que c'est tout ce que l'on dit, c'est vrai, hein, c'est pas juste, etc. C'est pas vrai. Vous aviez eu le débat à l'école, je me souviens, les classes de neige. Or, on ne peut pas intervenir dans les projets liés à l'éducation nationale.
À ce moment-là, qu'ils n'ont pas de subvention, là.
Donc, voilà la démarche qui a été faite par M. le maire. Donc, c'est qu'il a quand même rencontré tous les enseignants et les directrices concernées. Il faut quand même savoir que sur les 4 projets, enfin les 2 projets, on va dire, 2 des voyages, des personnes ont fait l'effort de baisser le coût, parce qu'on est parti de très loin, on part de plus de 40 000 euros, hein, les premiers devis. Donc deux enseignants ont fait le choix de réduire le coût et deux autres enseignants sont vraiment restés sur leur position sans effort supplémentaire. Donc après, à nous, évidemment, on veut subventionner, mais il faut que chacun aussi bouge.
Comment vous avez fait pour jouer le jeu avec ceux qui ont compté sur leur position alors?
Ben, c'est la proportionnelle, donc forcément, on voit qu'il y a un trou restant aux familles qui est plus important d'un côté que de l'autre. Quoi.
Franchement, c'est pas normal pour les enfants. Quoi.
Alors, pour les enfants, Madame Coulet, déjà, il y a un point qui est quand même positif, c'est que ces enfants-là, il n'y en a aucun qui n'est déjà parti dans un autre voyage, ce qui aurait été un élément qui n'aurait pas été très bon. Bon. D'un autre côté, le voyage en Angleterre, bon, il faut aller en Angleterre, il faut revenir, ça prend nécessairement un peu plus de temps. Ça, c'est exact. Bon, c'est aussi un beau projet, c'est vrai. Ils rencontreront les gens de Rennes qui sont jumelés avec la ville de Verberie. Voilà. Donc là, on a fait, bon, dans cette première, enfin pour nous, hein, ce premier départ, on a joué le départ, effectivement, de des classes qui voulaient partir, au final.
Comment Et vous avez, pardon, expliqué à certaines familles qui vont payer plus cher que d'autres dans le départ?
Oui.
Dans les différentes écoles, puisqu'il y en a,
Ah bah. Oui, alors, il y a, là-dessus, il y a le premier point, c'est que les voyages sont quand même pas du tout les mêmes. Hein, ça, c'est le produit n'est pas le même, si vous voulez. Et le deuxième point, quand même, qui est important, c'est que les enseignants ont fait, enfin, plus que des sondages, ils ont interrogé les familles pour savoir quels sont les enfants qui partiraient. Bon, il s'avère que quasiment tous les enfants partent à quelques unités près, vraiment. Ce que l'on m'a dit, c'est que c'est les enfants qui ne partent pas, ce ne sont pas pour des raisons financières. Il y a d'autres raisons. Enfin, c'est la réponse qu'on m'a faite. Et de toute façon, il faut savoir que vis-à-vis de l'inspecteur de l'éducation nationale, parce qu'il y a plusieurs acteurs dans ces classes de découverte, il faut qu'il y ait au moins 80% des enfants qui partent.
D'accord.
Bon, là, on est nettement au-dessus de ça. Hein. On est très, très au-dessus de ces 80%, que ce soit pour les CP ou que ce soit pour les cours moyens, première et deuxième année.
On est bien d'accord sur le principe que c'est pas une façon de procéder.
Absolument.
On est d'accord.
C'est pour ça que tout à l'heure, je précisais qu'on était un petit peu devant le fait accompli et qu'on a essayé de faire au mieux en fonction des demandes de chacun. Voilà.
Mais c'est quand même pas normal qu'il y a des CM1, CM2 et des CP. Alors, les gosses du CP, quand ils repartiront en CM1, ils partiront deux fois, alors qu'il y a des gosses qui ne seraient jamais partis.
Non, enfin, non, pas forcément.
Quand même, vous dites que c'est une question de maîtresse qui ne veut pas.
Là, les gamins qui vont partir en CP, si les maîtresses, ils peuvent repartir. Et il y a des gosses qui pourront ne jamais
partir. L'an dernier, par exemple, il n'y avait que les CP qui étaient partis. Et les CM1 et CM2 n'étaient pas partis.
Je pense bon. Que le résultat devrait être que les CM2...
Mais c'est toujours les mêmes classes.
Non, moi, je pense que c'est bien les CP.
Comment?
Moi, je pense que les CP, c'est bien, parce que comme c'est...
Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais enfin, moi, je dis que les CM2...
Ouais, ouais, je pense que là, il faut en faire...
Je suis sûr que faire le débat,
C'est un jeu à plusieurs partenaires, éducation nationale, mairie, dans laquelle on ne domine pas tout. Mais on est bien d'accord, le fait que ce soit des enfants qui ne soient jamais partis, qui partent, ça c'est très important.
Ça c'est bien.
Oui, mais moi c'est pas... Je suis d'accord avec vous, hein, je suis tout à fait pour. Hein, je marche dans ce sens-là. Mais c'est quand même faire un petit peu... arriver sur la sensibilité, là, en même temps. Hein, c'est quand même pas... on est clair. Le procédé, il n'est pas acceptable, comme vous nous le présentez là. Et puis nous dire que c'est des enfants qui n'ont pas parti, évidemment, que tous on se dit « Ah bah ouais, c'est bien pour les enfants. » Mais en même temps, c'est quand même tiré sur une corde sensible, quoi. C'est pas tout à fait...
Disons que dans la manière, je pense qu'on peut aller, il faut améliorer les choses. Maintenant, derrière, les enfants ne sont pas responsables de ça.
Mais
bon, je crois qu'il faut mettre au point les choses et puis tirer la leçon.
C'est ainsi.
J'espère que pour les CM2, ben, ça leur permettra d'entrer en sixième avec des souvenirs et un excellent niveau en anglais. Enfin,
trois jours.
Alors, je... Si c'est bon, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, c'est bon, on y va. Donc je vous demande, en fait, d'accepter de financer les séjours proposés à hauteur de 15 000 euros. Ça, c'est le premier point. Et le second point, de fixer la participation des familles, participation maximale. Parce qu'après, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura d'autres actions, mais conduites par les parents d'élèves et les enseignants. Participation maximale de 242 euros pour le voyage en Angleterre et de 134 euros, je parle à l'euro près, hein. Oui, 134 euros pour le voyage à la mer. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Bon, alors à l'unanimité, cette décision est acceptée. Financement à 15 000 euros et pension des familles à hauteur de 242 euros et 134 euros en arrondissant à l'euro près. Deuxième point de l'ordre du jour, tableau des effectifs, avancement de grade catégorie B. Donc l'agent qui est titulaire du grade de vice de police municipale, remplissant toutes les conditions, ayant notamment réussi l'examen le 19 décembre 2008, fait un peu moins de 6 ans, peut accéder au grade de chef de service de police municipale principale de deuxième classe. Je crois qu'il est resté dans son grade précédent pendant plus de 11 ans. C'est ça, Mme Diablo ?
Non. Il a passé, le mois de décembre 2008, son examen. À la suite de cet examen, il a été proposé au grade de chef de service de police municipale. De police municipale. Donc là, maintenant, il peut accéder au grade de police municipale principale.
Donc 6 ans.
Mais déjà, voilà, puisqu'il faut attendre 6 ans pour passer au grade de police municipale principale. Et derrière, il y a un troisième grade.
Oui, hein.
Par la suite. Par la suite, il y aura un autre grade, puisque il y a 3 grades dans le cadre de... la police municipale principale. Voilà. Donc ça fait pas 11 ans.
Bon, ça fait 6 ans.
Il a suivi
le cursus normal.
Le cursus normal.
Alors, cette action d'avancement initiée lors de l'avancement en fait, du mandat précédent, hein, et donc il s'agit aujourd'hui de la conclusion de cette affaire. Je propose donc à l'Assemblée une modification du tableau des effectifs à compter du 1er décembre 2014 afin de permettre cet avancement qui se traduit par la création d'un poste de chef de service de police municipale principale deuxième classe et évidemment la suppression d'un poste de chef de service de police municipale. Voilà, ça c'est le premier point. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente comme augmentation au budget ?
Oui. Ça représente en brut de l'ordre de 30 euros.
30 euros.
Par mois, pardon. Par mois, hein, multiplié par 12. y compris, alors pas uniquement le salaire, là après on va parler du régime indemnitaire, donc les 30 euros cumulent les deux en fait, hein. Le régime indemnitaire et le salaire.
Petit à petit. Il n'y a pas de privé là.
Donc, suite à cet avancement, maintenant on n'a pas voté. Qui s'abstient ? Donc, l'avancement au grade de catégorie B. Donc, création de chef de service de police municipale principale deuxième classe et la suppression d'un poste de chef de police municipale, de chef de service de police municipale, sont votés à l'unanimité. Alors, suite à cet avancement, et comme je l'ai déjà un peu dit, il est nécessaire de transposer le régime indemnitaire de l'agent, ça va de pair, et pour cela, de créer le régime indemnitaire correspondant au grade de chef de service de police municipale principale de deuxième classe. Il est donc proposé à l'Assemblée de créer à compter du 1er décembre 2014 une indemnité spéciale mensuelle de fonction au profit des catégories de personnel suivantes, filière police, chef de service de police municipale principale de deuxième classe. Voilà le crédit ouvert dans le cadre duquel le maire effectue les attributions individuelles et calculé comme suit. 30 traitements mensuels bruts soumis à retenue pour pension, hors supplément familial, fois un taux de 30% par le nombre d'agents, évidemment. Voilà. Indemnité versée mensuellement aux agents concernés. Et encore une fois, l'impact sur le budget pour les deux, avancement de grade et régime indemnitaire, est de 30 euros par mois.
Brut.
Brut.
Il n'a pas lui en demander.
Brut. Bon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, la décision est prise à l'unanimité. Suivant de l'ordre du jour, convention emploi aidé. Alors, lors de la délibération numéro 74-2014, concernant la modification du tableau d'effectifs, nous avons créé un poste d'adjoint administratif de deuxième classe afin de renforcer l'équipe du service administratif de la mairie. Donc là, on avait créé le poste. Maintenant, on est passé dans la phase recrutement. Et dans cette phase recrutement, on s'oriente vers des emplois aidés. Donc je demande en fait à l'Assemblée de m'autoriser à signer la convention d'aide financière à venir pour un emploi d'avenir ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi. En fait, on a reçu des personnes sur emploi d'avenir, donc qui sont financées... les éléments. Alors le contrat d'avenir, ce sont un contrat d'insertion qui porte sur des jeunes de 16 à 25 ans, une formation inférieure au niveau bac, 6 mois sans emploi au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'emploi d'avenir. D'accord ? Et on regarde également le contrat d'accompagnement dans l'emploi, CAE, qui, lui, pour lequel nous avons une aide de l'État de 70% du brut, sur 20 heures, 28 heures maxi financées 24, un poste à temps complet est possible, et c'est 12 mois renouvelables une fois. Il n'y a pas de condition d'âge. Donc on a regardé en fait ce deuxième type de contrat aidé, parce qu'il permet de recruter des gens avec un niveau supérieur au niveau précédent.
Mais si vous prenez une personne avec un niveau, on va dire, BTS+, son salaire ne va pas être le même que si c'était une personne qui avait un salaire.
Ah si,
c'est un salaire.
C'est le SMIC, hein.
C'est le SMIC.
Parce que dans la législation du travail, une personne qui a un GPS,
c'est dans le cadre des emplois aidés.
Il rentre dans le cadre des emplois aidés.
Mais même à l'aéroport.
Ah oui, et puis dans le cadre des emplois communaux tout court, hein, vous êtes payé en fonction du grade que vous avez, vous n'êtes pas payé en fonction des diplômes que vous avez. Bon, après, il y a forcément à un moment donné une certaine corrélation entre le niveau de diplôme et le grade. Hein.
C'est les concours qui font.
Mais vous passez les concours. Hein. Oui, attendez, un peu de silence. Oui, madame Coulet.
On ne peut pas faire plus. La personne ne pourra pas faire plus de 28 heures, quoi qu'il en soit.
Si, elle peut faire un temps complet possible. Après, les autres heures, à ce moment-là, vous les financez intégralement.
Parce que j'avais compris 20 heures financées par l'État.
À 70%.
28 à 24. Puis 35 sur la base de 24.
Ah, parce que sinon, ça fait un peu un emploi.
Non, c'est un emploi qui est payé, encore une fois, SMIC. Hein. Ouais, ouais.
Alors la question ce qui se pose, c'est est-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui n'a pas de formation du tout, par rapport au travail qui va lui être alloué, va avoir les capacités de le faire?
Alors, la réponse...
C'est la question que je me pose,
oui.
Parce que lorsque le personnel, c'est quand même un sujet qui devient de plus en plus complexe, la législation des communes, et le fait d'avoir des gens qui sont quand même... qui ne sont pas de niveau, si vous voulez, pose quand même un problème.
Alors là, la passe qui est prévue pour cette personne, c'est d'être à l'accueil,
oui,
déjà.
C'est,
je dirais, le poste d'entrée, quelque part, pour quelqu'un qui n'a pas une formation spécifique dans les différents domaines. Ensuite, nous recevons les candidats à plusieurs. Et d'abord, on les reçoit individuellement, ils s'expriment, on les questionne, et après, ils passent un test qui est d'ailleurs préparé par Madame Jablot. Donc, on s'assure que derrière, il y a une vraie compétence minimale. Niveau connaissance, on va dire, générale. Hein,
oui, entendu.
Ouais.
Facilité d'adaptation.
Voilà. Exactement. On va tout de suite si la personne peut s'adapter à ce qu'on lui demande.
Voilà, le contrat serait conclu pour un emploi à durée déterminée d'un an dans un premier temps, avec possibilité de renouvellement si l'agent donne satisfaction, évidemment.
Satisfaction,
on ne renouvelle pas.
Donc il faut attendre un an.
Il faut quand même attendre,
on est obligé de garder un an. Est-ce qu'il n'y a pas une
période d'un mois renouvelable?
Comment?
Période d'essai d'un mois renouvelable?
Oui. Déjà, il y a le fait qu'il passe devant... devant un jury, et ensuite il y a effectivement
et au bout de deux ans, est-ce qu'il est prévu de l'embaucher ou est-ce qu'il est prévu d'en reprendre un autre? Non, mais je pense parce que bon, vu
alors,
le DGF qui va diminuer, est-ce que c'est
il y a plein de choses qui rentreront en considération au moment venu. Hein, parce que
c'est toujours difficile lorsqu'on est content des gens et qu'ils sont investis,
ouais,
de les remettre dans la nature.
D'un autre côté,
ça a toujours été mon...
si on embauche aujourd'hui, c'est parce qu'on a un réel besoin aussi. Quand on compare le nombre de personnes qu'on a ici à la mairie, comparativement aux mairies alentours, en ETP, oui, mais justement, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui arrivent en complément de ce qu'il y avait avant à faire au niveau de la mairie. Et bon, aujourd'hui, on est un petit peu ricarac. Hein,
enfin, toutes les dépenses sont faites en fonctionnement, ne seront pas faites en investissement.
Absolument. Mais il faut quand même
Mais là,
faut quand même faire pouvoir tourner la mairie, quoi.
Le passage à plus de 3500 habitants, enfin le passage administratif, je veux dire, a quand même des conséquences très concrètes sur le travail. Ne serait-ce que maintenant, les notes de synthèse qui doivent être faites, qui n'était pas le cas avant. Même au CCAS, maintenant, il faut faire des notes de synthèse avant de réunir le CCAS. Enfin, c'est un travail administratif qui est plus lourd.
La personne devrait arriver quand ?
Là, on doit recevoir des personnes d'ici supplémentaires dans quelques jours. L'idée, c'est de la faire arriver avant la fin de l'année. Bien, donc je vous repose la question. Est-ce que vous m'autorisez-vous à signer la convention d'aide financière à venir pour un emploi d'avenir ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je suis autorisé à signer cette convention à l'unanimité. Et il est bien évident qu'on reste vigilant sur tout ce qui est dépenses de fonctionnement et volume de personnel.
Le coup final, excusez-moi, chaque fois on a le même piège sur ma structure. Hein.
Ouais.
On prend des emplois aidés, on en a un certain nombre, et voilà. Mais souvent, les gens pensent effectivement à l'aide immédiate et on regarde uniquement ça, mais à la fin, c'est bien un coup complet. Hein,
Alors, sur le coût complet, oui, j'ai quelque chose que j'ai en complément. Si la personne donne parfaitement satisfaction, nous avons aussi des membres du secrétariat qui sont assez proches de leur retraite. Hein? Donc, ça peut être minimalement une solution.
Oui, enfin, sauf que tout à l'heure, quand vous disiez, sont des missions complémentaires, parce qu'il y a un besoin complémentaire, ce qui veut dire que demain,
s'il
départ à la retraite, il y aura à nouveau.
Ah, bien sûr.
Oui.
De toute façon, il y aura sans doute des besoins. Il y a un coût, bien sûr.
Mais on aura déjà des personnes formées dedans.
Il faudra trouver un moyen de réduire le budget de fonctionnement quelque part. De toute façon, on va être obligé d'équilibrer les comptes avec tout ce qui nous arrive maintenant. De partout. On réduira en conséquence là où on peut.
Évidemment,
mais bon. Je passe au point suivant de l'ordre du jour. Donc, indemnité du receveur municipal. Alors, donc le receveur municipal reçoit, si elle est votée, une indemnité de la part de chaque municipalité qu'il gère, ou du moins pour lequel il travaille, sachant que ce receveur municipal, il faut le solliciter, mais doit aussi vous donner des conseils et doit vous aider. Alors, jusqu'à présent, c'était le cas. Ils ont versé cette indemnité. Faut le savoir. Maintenant, suite au mouvement survenu cette année au niveau du chef de poste, de la perception de Ponsat Maxence, il faut de nouveau délibérer, puisque M. Didier Doublé est parti le 14 mai 2014. Il y a donc eu une période transitoire où Mme Nazareth Pinto a occupé le poste jusqu'au 30 juin 2014, et Mme Morissette de Le Salle est arrivée depuis le 1er juillet. Vous remarquez que je ne l'ai pas dit.
La trésorerie de pont.
Donc, on va quand même voter en supputant le fait que Madame Morissette de Le Salle ira jusqu'au 31 décembre 2014. Si ce n'était pas le cas, de toute façon, ça s'arrêterait et ça passerait en conseil municipal. Voilà. Donc, le montant de cette indemnité pour la totalité des receveurs est de 635,90 euros, qui sont ici entre M. Doublé, Mme Pinot et Mme Dahl pour l'année 2014 au prorata de la durée de leur fonction. Ah oui, alors, oui. Là, c'est pour les montants. Hein. Ce que je disais, c'est pour les montants. Mais la délibération, en fait, pour Mme de Lesalle, elle s'étend jusqu'au moment où Mme de Lesalle quittera son poste, ou alors jusqu'au moment où on prendra une autre délibération, parce que on décidera soit de réduire l'indemnité, soit... voilà. Bien, donc... acceptez-vous de verser cette indemnité ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc une abstention. Et donc qui est pour ? Donc qui est pour ? Tout le monde moins un, c'est-à-dire nous sommes ici. Il y a 24 présents, c'est ça ? Et deux pouvoirs, donc 26 votants, donc 25 pour. Point suivant de l'ordre du jour, décision modificative numéro 2 de l'exercice 2014. Donc nous avons voté lors d'un précédent conseil municipal et même du précédent une subvention exceptionnelle de 1000 euros à l'école de musique de Verberie. Donc cette décision modificative intervient dans ce cadre-là. Et je propose donc de voter les crédits suivants en dépenses de fonctionnement. Donc, article 6522 dans le libellé entretien en bâtiment, moins 1000 euros, soit un passage de 180 000 euros à 179 000 euros. Et évidemment, dans l'autre sens, à l'article 6574, subvention fonctionnement personnel droit privé, une hausse de 1000 euros qui fait passer cet article de 202 000 725 euros à 203 725 euros. Voilà. Non, non, mais...
Ah oui, mais ça. C'est ça un budget.
Comme il y a un gâteau, si on en prend un petit peu plus pour l'un, on en donne un petit peu moins à l'autre. Un peu de silence. Un peu de silence. Bon. Je demande l'approbation pour cette décision modificative numéro 2. Qui est contre ? Donc un contre. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Chut ! Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc les autres, la différence, donc 25 pour.
Il avait voté contre la subvention. C'est normal qu'il vote contre ça là aujourd'hui.
Ah oui.
C'est logique. L'inverse aurait été.
Oui, oui.
Non.
C'est
voilà.
Un peu. Pas de. Ce que je vous demande, c'est. Chacun peut parler, mais pas à son voisin. On parle à tout le monde. Donc, chapitre suivant, classement d'une voie. Donc, par délibération en date du 9 décembre 2009, le conseil municipal avait décidé le transfert de la propriété des parcelles cadastrées AI numéro 86 et 87 de la commune. Ces parcelles constituent le terrain d'assiette d'une voie couverte à la circulation publique dénommée rue Jean Moulin. Cette voie présente des caractéristiques géométriques et structurelles qui justifient un classement dans le domaine public de la commune. Alors, je vais donc vous proposer de procéder à l'intégration de la parcelle susmentionnée dans le domaine public de la commune et au classement en voie communale de la rue Jean Moulin, mesurant 70 mètres linéaires. Alors, concrètement, pourquoi ? Alors, je ne sais pas si c'est proportionnel. Toujours est-il que la longueur des voies joue un rôle dans la dotation globale de fonctionnement. Donc, plus on a de longueur de voie et plus on a de dotation globale de fonctionnement.
Elle était dans le domaine privé.
Oui, avant, elle était dans le domaine privé. Donc là, j'ai signé aussi pour cette semaine le clos Charlemagne. Mais là, il y avait déjà une délibération de prise. C'était juste... moi, la signature à mon niveau, il y avait une délibération avant, et là, ça a ajouté 500 mètres. Donc, normalement, ça doit se traduire sur une moindre baisse de la dotation globale de fonctionnement.
Non, ça n'a jamais été passé.
Voilà, bon, voilà pour l'explication concrète. Hein.
Parce que c'est une voie qui a été faite il y a
5 ans. Donc je pense qu'on a tout intérêt à le faire, même si ça ne nous rapporte que quelques euros.
Enfin, j'ai dit, l'état aujourd'hui.
Pardon ?
L'état aujourd'hui est bon et dur.
Oui.
Parce que si je mets des avers et qu'on doit la refaire dans la foulée, on n'y va
pas. Alors, elle est déjà récupérée, là, pour le cas. Hein. Là, c'est...
Elle est récente, cette rue-là.
Oui, elle est assez récente. Mais bon, on a des petits problèmes quand même dans cette rue, hein, d'arbres, de racines, etc. Où on va agir. Les services techniques vont agir avec la tronçonneuse. Donc je vous propose de procéder à l'intégration des parcelles susmentionnées dans le domaine public de la commune et au classement de la voie communale de la rue Jean Moulin mesurant 70 mètres linéaires. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, c'est adopté. Pardon.
On n'est pas obligé de faire une enquête publique parce qu'il y a une reprise. Plus maintenant ? Non, c'est la question, parce qu'avant on était obligé de faire une enquête publique pour le passer du domaine public au domaine privé.
Depuis quelques années, on en est
déconseillé. Oui, je me souviens, l'année dernière, on a la dernière fois. Charlemagne, on a passé.
Donc, je repose la question. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics, enfin ils sont déjà bien alertés, hein, mais on sera un contributeur supplémentaire, sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État. Donc je vais vous lire le texte. Les collectivités locales et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'État sont en effet appelés à diminuer, de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Dans ce contexte, le bureau de l'Association des maires de France a souhaité à l'unanimité mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L'Association des maires de France, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la dépense publique. Aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'Association des maires de France prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. En effet, la seule alternative sera de procéder à un arbitrage douloureux affectant les services publics locaux à investissement du fait des contraintes qui limitent leur levier d'action. Rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'État, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale. Donc, la commune de Verberie rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont par la diversité de leurs interventions au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société. Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien-vivre ensemble. Elles accompagnent les entreprises présentes sur le territoire. Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale, et fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. En outre, la commune de Verberie estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. C'est pour toutes ces raisons que la commune de Verberie soutient les demandes de l'Association des maires de France, réexamen du plan de réduction des dotations de l'État, arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives sources d'inflation de la dépense, réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. Voilà, donc, oui. Non.
Si.
Oui.
Dans la question que je voudrais poser, l'évaluation de perte de DGF sur les quelques années à venir, combien aujourd'hui ?
Alors, on a perdu cette année 28 000 euros. Donc là, on va regarder sur des chiffrages plus précis. Alors, la perte de DGF, bon, il y a des tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a peut-être un peu plus de population, il y a peut-être un peu plus de longueur de voie, mais globalement, de toute façon, ça va continuer à diminuer. Et clairement, on estime, on a eu 28 000 euros cette année. C'était une réduction de 1,5 milliard au budget de l'État. L'an prochain, c'est 3,7 milliards. On a fait tout simplement la multiplication. Hein. Donc on estime qu'on est autour de 60 000 euros.
Pour
2015.
On a fait une estimation sur la CCPOH.
Oui.
Horizon 2018, il nous reste quelque chose comme 45 000 euros de DGF. Pour une structure comme la nôtre. Beauvais, on en parlait récemment, c'est plus de 2 millions de pertes pour la participation à l'effort. Donc forcément, que pour les collectivités, ça représente un peu prononce. Cette motion me semble tout à fait judicieuse. Maintenant, reste à savoir si ça amènera quelque chose ou pas.
Et si au
salon des maires, les représentants interviendront, parce que la dernière fois, ils se sont déballonnés quand même sur les questions de la réforme.
Ouais. J'ai lu un article, je n'ai pas les détails exacts là en tête, mais comme quoi on allait avoir certaines dotations qui allaient être versées dans certains secteurs. Suite justement à cette motion. Mais d'un autre côté, ce qu'ils ont donné d'un côté, ils avaient réduit le délai de récupération de la FCTVA. Et donc, ils ont annulé cette motion-là en contrepartie de ce qu'ils donnaient de l'autre côté. Donc, on pouvait récupérer de la FCTVA avant, on mettait 2 ans à la récupérer. On devait la récupérer dans l'année. Et cette motion-là a été annulée au Parlement il y a une quinzaine de jours. Donc, faut pas se leurrer.
Pour être très clair quand même sur cette politique qu'on nous oblige à mener, effectivement, au niveau des collectivités, ça conduit à quoi ? Ça conduit demain soit à des restrictions quant à nos services, soit, mécaniquement parlant, une augmentation des impôts.
Soit on réduit les dépenses, soit on augmente des ressources.
Ou les deux.
Par contre, sur la... j'entends la question de moins de travaux. Le problème, c'est que si on part demain sur ce genre de réflexion, c'est d'une manière ou d'une autre notre patrimoine qu'on détériore sur les années. Ce qui veut dire qu'on peut très bien imaginer effectivement une politique comme celle-ci, sauf que ça veut dire que sur les années suivantes, vous aurez encore plus à payer pour rattraper cette erreur.
Je pense que
le patrimoine, ça s'entretient sur le long terme, mais ça s'entretient depuis fort longtemps.
Je pense que là-dessus, les gens aujourd'hui sont, enfin les citoyens sont avertis de ce qui se passe. Hein, on entend parler tous les jours. Donc ils savent bien que ce qui ne va pas être donné d'un côté, il va falloir qu'ils payent de l'autre. Hein. Malheureusement.
Alors ceci dit, il faut quand même essayer de faire des efforts et de trouver les endroits où on peut réduire les dépenses. Hein. Après, est-ce que ça suffira? Je suis bien en peine de le dire. Enfin, parce que le problème qui est posé, oui, pas entretenir le patrimoine, de toute façon, c'est une dette qu'on creuse pour après. Enfin, y a pas de...
Un jour ou l'autre, il faudra le faire.
Il faudra le faire et même amplifier. Enfin, c'est ce que vous disiez. Hein. Fait que... Donc là, ça pose problème, surtout qu'en plus, cette année, il ne faut pas se le cacher, on a quand même parmi les ressources fiscales, une ressource fiscale qui est très... comment dire, qui peut évoluer très fluctuante, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est la CVAE. Et a priori, cette année, je ne pense pas que la CVAE soit en hausse sur les années
précédentes. CVAE, c'est la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises. Hein.
Des entreprises.
Ceux qui ne savent pas.
On verra l'impact.
Ce qui veut dire aussi que pour augmenter l'impôt, enfin, pour avoir plus de recettes, à un moment donné, la question qui se pose, c'est soit effectivement l'augmentation des taux, soit aussi un travail sur les bases.
Hein. Ouais. Oui. Tout à fait, oui.
Donc, je me permets d'alerter sur cette question, puisqu'on discute au niveau du PLU, de mettre pédale douce sur certaines choses. Moi, je peux l'entendre, sauf que si vous ne le faites pas, s'il n'y a pas plus de développement, à un moment donné, c'est bien ceux qui sont là qui devront subir l'impact. Donc, voilà.
Oui. Enfin, on peut voir les choses comme ça.
Sauf que si on gonfle la commune, les infrastructures, on aura pas les moyens de faire.
Oui.
La question, c'est de trouver un bon équilibre. C'est une discussion à porter. On ne peut pas aussi admettre aujourd'hui que les
si on la joue trop, est-ce qu'on peut être exemple.
C'est une réflexion à juste milieu.
C'est un peu une fuite en avant. Parce que, enfin, il y a des maires aux alentours qui. C'est un peu une fuite en avant. Il y a des maires aux alentours qui disent non, un habitant, ça ne rapporte pas d'argent à la commune, ça coûte de l'argent à la commune. Tout équilibre fait entre impôts et.
Ça dépend de la capacité absorbée aujourd'hui par rapport à nos.
S'il faut recréer des infrastructures, j'en suis plus fort, mais là par exemple, il y a des classes
qui
prêtent à accueillir des enfants et principalement ce sont les écoles. Les écoles peuvent absorber aujourd'hui.
Il ne faut pas oublier
qu'on est une pôle, hein, qui doit se développer au niveau du schéma de coopération. Et puis un autre problème, c'est
structurant.
Est-ce que l'année prochaine, le FPIC va être peut-être. Parce que le FPIC. On verra, en commission de finances. Aujourd'hui, c'est les communes qui touchent à l'EFPIC, mais comme la communauté de communes a la compétence du ODB, et la communauté de communes de Clermont, par exemple, a récupéré l'EFPIC pour financer le ODB, et bien entendu, c'est la grande question du financement. Est-ce que l'EFPIC continuera à aller sur les communes, ou est-ce qu'il sera rapatrié à la communauté de communes pour pouvoir payer le ODB? Parce qu'il y en a quand même qui disent non. Ça, c'est une question ultérieure.
Ce sera une question à aborder. Nous, c'est clair que ce qu'on souhaite, c'est que le FPIC continue à retourner le fonds donc, de compensation vers les communes.
Si c'est la communauté de communes qui paye le ODB. C'est bien que on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Donc, pour faire le haut débit, il va bien falloir qu'il soit financé. Et aujourd'hui, il a été donné aux communes, mais la compétence du haut débit, hein, il y en a quand même pour 2 millions d'euros.
Oui.
Tout ça sera vu.
C'est un débat qu'il faudra avoir sans doute à un autre endroit et avec d'autres arguments.
Des arguments, hein, bien sûr.
Avec d'autres arguments. Pardon, qu'est-ce qu'il y a des incidences?
Les choix qui seront faits. Donc, je pense que c'est
Tout choix a des incidences sur le reste. Hein,
Le très haut débit aujourd'hui, elle est quand même aussi assez majeure parce que c'est certes un beau projet sur le principe, sauf que demain, pour vous, je ne vois pas en tant que tel générateur de richesse, en tout cas dans des temps suffisamment rapproché, on va dire.
Retour sur investissement
avec, sera long. Avec des dépenses qui sont monumentales à l'échelle du département.
Ouais.
Sur le EEH, c'est 7 millions d'euros.
De toute façon, là, c'est...
400 000 euros à dépenser pendant 20 ans pour payer ça, ouais. Et sans que ça ne génère de richesse. Ouais. Bon, on peut s'interroger.
Là, c'est parti, hein, de toute façon, hein, sur le très haut débit.
C'est parti.
Ouais, bah, oui.
Oui. Sauf si on fait marche arrière. Hein. Vous êtes toujours parti, sauf si vous désengagez du... Il n'était pas prévu non plus la baisse de la DGF dans les proportions qui sont aujourd'hui de 11 milliards. Donc, bon, il est évident qu'on ne peut pas continuer à faire des investissements qui, aujourd'hui, est-ce qu'elles seront nécessaires pour les entreprises et ça, j'en suis pas sûr, aujourd'hui, maintenant, mais plus pour les particuliers. Donc, est-ce que les particuliers sont prêts à financer le très haut débit? Je n'en suis pas non plus certain par rapport à Internet. Mais c'est un autre débat. Hein.
Oui. En tout cas, sur le numérique, bon, c'est vrai que maintenant, on a des besoins en termes de numérique. Maintenant, est-ce que le tout fibre est un bon choix? Ça, c'est un autre sujet.
Ils vont le DOB.
Sans doute.
Mais on sera au DOB. On sera obligé d'aborder sur le DOB.
Bien, après cette motion, donc pour cette motion, je vous demande de, eh bien, l'approbation et d'apport que de m'autoriser à apporter le soutien de la ville de Verberie à cette motion de l'AMF. Un peu de silence. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la motion est adoptée à l'unanimité. Alors maintenant, je dois vous présenter le rapport, alors qui est consultable, qui est évidemment consultable par tous, hein, le rapport d'activité 2013 du syndicat d'énergie SE 60 de l'Oise. Donc c'est le rapport 2013, évidemment, c'est un peu, ça date un peu maintenant. Je vais simplement vous rappeler que dans cette année 2013, il y a eu trois axes majeurs pour ce syndicat. Ce syndicat qui, pour nous, notamment, assure la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'on peut être amené à faire dans le domaine de l'électricité, qui assure aussi maintenant d'autres compétences. Hein. Il y a aussi l'éclairage public, mais enfin, nous, pour l'instant, on a gardé la compétence éclairage public, qui fait également un groupement de commandes pour le gaz, et qui s'apprête à faire un groupement de commandes aussi pour l'électricité avec l'ouverture des marchés à la concurrence, là pour le 31 décembre 2015. Donc là, dans ce rapport 2013, il y avait trois orientations, trois axes majeurs. L'un des axes était de consolider la maîtrise d'ouvrage. Donc là, aujourd'hui, je crois que ce qu'ils disent, c'est qu'en 2013, ils ont effectivement atteint ce qu'ils voulaient, puisque le syndicat d'énergie 60 couvre 99% de la population rurale, hein, à l'exception de celle d'une ville qui s'appelle Saint-Crépin-Ibouvillé. Voilà, ça c'est le premier point dont ils font état. Le deuxième point dont ils font état, c'est qu'ils ont modifié leur statut à l'époque pour préparer l'avenir. Ça a d'ailleurs fait l'objet, si je ne me trompe, d'une délibération en son temps ici, avec la création des syndicats locaux d'énergie. Et nous appartenons au syndicat local d'énergie de Pont-Sainte-Maxence. Dernier point, c'était de renforcer le suivi ERDF. Et là, c'était un élément que je voulais vous donner, puisque à la fin 2013, le syndicat d'énergie dit lui-même « Les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous, avec un temps de coupure annuel encore trop important. Il se monte à 121 minutes en 2013, contre les 100 minutes déjà très préoccupantes en 2012. » Voilà. Donc 2014, j'ai cru comprendre la dernière réunion que la situation s'était bien améliorée et qu'il y avait eu des investissements importants. Mais en 2013, en tout cas, ils n'étaient pas satisfaits de la qualité de service de RDF. Donc une de leurs missions, c'est notamment le contrôle de RDF au niveau de ce syndicat. Dernier point, ils touchent quand même pas mal d'argent. Hein. 17, donc là, ils ont eu des recettes à hauteur de 21 millions d'euros. Ils en ont dépensé 17 sur ces 17 millions d'euros, un petit peu plus. Hein, 80% ont été consacrés à des travaux. 7% ont été consacrés au fonctionnement, donc ce qui est un ratio normal. 7% pour le fonctionnement, c'est un ratio normal. Et le reste a été reversé en fait aux collectivités locales. Et nous, on a touché pour notre part 1 600 euros. C'est de l'ordre de 1 600 euros du syndicat d'énergie. Voilà, pour vous donner quelques éléments. Maintenant, le rapport comporte évidemment des éléments supplémentaires. Beaucoup plus précis. Voilà ce que je voulais vous indiquer à titre d'information. Encore à titre d'information, donc compte rendu des réunions et organismes divers, j'aborderai assez brièvement qu'un point. Le 16 octobre, on nous a présenté la carte, dans le cadre du plan de prévention du risque inondation, on nous a présenté la carte des aléas des hauteurs d'eau, qui est la première étape pour aller vers la modification du PPRI, donc plan de prévention du risque inondation. J'ai les cartes ici, donc que vous pourrez visualiser chacun à votre tour. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, le PPRI était essentiellement basé sur la crue de 1993 plus 30 cm, que maintenant il est basé sur une crue. Alors, celle-ci, d'après les experts, c'est une crue de retour cinquantennale. Maintenant, il est basé sur une crue centennale que personne n'a jamais vue, qui résulte de calculs, qui est évidemment supérieure à tout ça, et qui se traduit pour nous par des hauteurs d'eau estimées que nous n'avions pas sur certaines zones. Alors, comment ça se poursuit, cette affaire? Je vais en dire quelques mots. Après cette carte des aléas des hauteurs d'eau, il y a normalement un mécanisme qui est en place. Et ensuite, on examine les enjeux par territoire. Donc, normalement, les personnes de, je suppose que c'est de la préfecture ou le bureau d'études, plutôt, vont revenir nous voir. Ils doivent croiser ensuite, les cartes d'aléas des hauteurs d'eau et des enjeux pour estimer les risques. Et puis, tout ça, ça se termine par un zonage réglementaire, zone rouge, zone bleue, avec une enquête publique fin 2016. Et là, l'application d'un nouveau PPRI fin 2016. Mais, en attendant, puisqu'on a reçu cette fameuse carte des aléas des hauteurs d'eau, nous devrions recevoir un porté à connaissance du préfet qui nous demandera de prendre en compte ces hauteurs d'eau dans l'attribution des documents d'urbanisme, permis de construire, et etc. Voilà. Alors, l'autre démarche qui est en cours sur ces affaires-là, c'est ce qu'ils appellent l'atelier national. Maintenant, il y a quand même un changement de portage. Je ne sais pas quand il sera effectif, mais c'est de dire, oui, il y a de l'eau, mais on peut quand même construire quand il y a de l'eau, en prenant évidemment des mesures particulières qui restent à fixer, sachant que nous sommes dans une zone quand même qui est accrulante, donc on ne risque pas de se retrouver avec des gens noyés parce que surpris dans leur bâtiment. Ici, on sait 3 jours avant que l'eau va monter, donc on peut évacuer, on peut faire des choses. Mais ceci dit, là pour l'instant, ce sont des études, c'est du papier. Et après, comment tout ça se concrétisera et dans quel délai, ça c'est autre chose. Je parle de l'atelier national que je viens d'évoquer. Voilà l'information que je voulais vous donner sur ce sujet-là. Y a-t-il des questions particulières auxquelles je pourrais ou pas répondre?
Je vais ajouter quelques précisions. En fait, c'est 30 cm et là on rajoute 60 cm.
Oui.
Donc ça fait 90 cm. Alors, le problème, bon, alors on pourra toujours délivrer des permis de construire jusqu'à la fin 2016, bien entendu, mais il faudra que les gens ils fassent un remblai de 60 de plus, sinon, parce qu'aujourd'hui, il y a des terrains qui sont constructibles, Et si on ne délivrait pas les permis de construire, là aussi, on peut se retrouver au tribunal pour ne pas les avoir...
C'est tout le problème.
C'est tout le problème. Donc la seule solution, c'est à ce moment-là qu'ils fassent des dépôts de permis de construire avec un remblai supérieur. Mais le gros problème de tout ça, c'est quand même les digues qui ont été faites, hein, et qui ont été faites en fonction des dernières directives, c'est-à-dire plus 30 cm.
Oui.
Et là, avec plus 60, certaines digues deviennent, alors, pas sur la totalité, mais, par exemple, sur 20 mètres ou sur 30 mètres. Mais c'est là où l'eau s'engouffre, et c'est là où ça fait céder les digues. Donc, dans ce cas de figure, on sera obligé de remonter les digues pour, d'où un coût financier extrêmement important, pour la commune, pour une montée des eaux virtuelle, car la crue centenale ne veut rien dire. Hein, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui a été décidé par l'État pour se dégager de tout ça, et qui met les communes devant un fait accompli, et devant des situations quand même extrêmement difficiles, où par exemple vous avez Sanofi, hein, on en parlait, où il y a 1200 emplois, qui sont en jeu par rapport à ces digues, puisqu'ils sont complètement inondables, toute la ville de Marny, enfin, tout ça a des conséquences extrêmement graves financièrement, sans compter les entreprises qui devront payer le double, le triple, voire le quadruple, pour être assurées, puisqu'ils vont se retrouver, alors qu'avant, ils n'étaient pas dans l'eau. C'est une prime de risque supplémentaire,
bien évidemment.
Ils sont obligés de payer 3 ou 4 fois. Alors, est-ce que ces gens-là vont rester? Est-ce qu'ils ne vont pas partir pour aller dans des endroits plus à moins risque? Et lorsque vous avez des industriels qui vont venir, ils vont dire, ah, bah, écoutez, attendez, il y a un risque, donc, il y a des risques sur les cartes. Donc, c'est quand même un problème extrêmement important.
Oui, c'est un problème important. Après, l'affaire des digues, ben, on en avait parlé déjà lors d'un conseil municipal précédent. On avait évoqué le sujet. C'est vrai qu'on a fait construire des digues qui maintenant, elles vont toujours servir parce qu'on n'a jamais vu de crue centenale. Donc s'il y a encore une crue type 93, de toute façon, l'eau sera arrêtée par ces digues.
Enfin, une chose est certaine, c'est qu'il faut se préparer à tout ça, puisque de toute façon, ce sera comme ça. La concertation, il y en aura, oui, il y en aura une, mais je préférerais, ce sera cette décision-là, point final, terminé. Il ne faut pas croire qu'on va pouvoir discuter.
Alors, non, non.
On discutera de rien.
Concertation
virtuelle. C'est l'État qui décidera, point final.
Bon, voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là, mais il y a peut-être d'autres questions sur ce sujet de... Alors nous, oui, je voulais dire une chose, tant que j'y pense, je vais le dire. Il y a quand même un point important, c'est que la main fermée, finalement, reste pas tout à fait hors d'eau, mais disons qu'elle reste jusqu'à moins, dans le cas de la crue centenale, jusqu'à moins d'un mètre d'eau. Ce qui est une zone constructible, quelque part, sous condition. Ce qui est plus favorable que d'autres terrains qui sont de l'autre côté de l'Oise, qui, eux, ont plutôt tendance à se retrouver avec des hauteurs d'eau supérieures. Donc là, il reste pour nous à ce que cette main fermée ne passe pas zone humide. Voilà. Nous avons été... autre information aussi, complémentaire. Nous avons donc reçu les personnes du Sageba. Nous avons été avec elles sur site. Maintenant, il doit y avoir un bureau d'études qui intervient sur les zones... sur lesquels nous contestons l'aspect zone humide, de la principale étant la main fermée.
Est-ce qu'il veut dire que lorsque quelqu'un demandera un permis de construire sur ces zones-là, vous serez obligé de lui signaler que c'est une zone à risque inondable?
Ah bah de toute façon, oui.
Oui, non,
oui.
Ça c'est une sécurité,
oui.
Aussi bien pour,
oui,
vous que pour lui.
Oui.
Que ça ne passe pas comme un...
Oui. Bien sûr, maintenant qu'on a ces cartes-là, on doit dire aux personnes en crue centenale, voilà, vous risquez d'avoir telle hauteur d'eau.
Vous construisez, mais vous savez vos risques.
Ah non, 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 non. Non, 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 non. aux États-Unis, on dirait, vous construisez et vous prenez vos risques. En France, c'est pas comme ça. C'est, on vous donne l'autorisation de construire, on vous donne pas l'autorisation de construire. Et c'est l'État qui prend... C'est comme l'État, c'est lui qui prend le risque, et que les assurances se retournent sur l'État, l'État ne veut pas prendre le risque. Et donc c'est pour ça que se couvrant avec le parapluie, il remonte les zones de 60 cm.
C'est uniquement bon. Pour ça. Ceci dit, c'est quand même la situation dans laquelle on risque de se trouver jusque fin 2016. C'est-à-dire que jusque fin 2016, il va y avoir une espèce de flou. Et il faudra de toute façon dire aux gens, ben voilà, avec la crue centenale, là où vous êtes, vous risquez d'avoir telle hauteur d'eau.
C'est-à-dire qu'il faudra les obliger à faire un remblai de plus de 60
cm. Pour être dedans.
Sinon, si vous ne les obligez pas, c'est le maire qui se retrouve en...
C'est comme pour
stabiliser
les poids de terre.
Ouais.
Au tribunal, il y a un problème.
Il faut du moins les prévenir, hein. Ça c'est sûr. Voilà, je clôt la réunion du conseil municipal. Y a-t-il des questions dans la salle ? Non ? Très bien. Bah, écoutez...